VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 22 décembre 2021. En direct de Washington, Jean-Roger Billon
et Rosine Monezero.
On commence par le sommaire.
La Confédération africaine de football a confirmé que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendrait bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février.
Au Sénégal, deux députés ont été placés sous mandat de dépôt. Les parlementaires seraient impliqués dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques.
Des hommes armés se sont déployés mardi dans la capitale libyenne à 3 jours de la capitale de la date prévue pour les élections. La mission d'appui des Nations Unies en Libye s'est dite préoccupée par la situation sécuritaire à Tripoli.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump annonce une conférence de presse le 6 janvier, jour anniversaire de l'assaut du Capitole.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Malgré toutes les rumeurs de report ou d'annulation, la Confédération africaine de football a confirmé hier que la Coupe d'Afrique des Nations se tiendrait bien bel et bien au Cameroun du 9 janvier au 6 février. Le point avec Michel Joseph.
Le 9 janvier, je viendrai voir le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, a déclaré hier Patrice Motsepe, président de la CAF, après une rencontre avec Paul Biya, le chef de l'État camerounais. Le variant Omicron est un énorme challenge, a-t-il souligné, assurant que personne ne sera admis dans les stades sans un test PCR. Il a aussi assuré être au courant de la prolifération des faux tests, mais que son organisation traitait ces problèmes. Monsieur Motsepe a fait sa déclaration aux côtés de Samuel Eto'o, tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Le président de la CAF a assuré que le coup d'envoi de la 33e édition de la CAN sera donné le 9 janvier. En septembre 2014, le Cameroun a été désigné pays hôte de la CAN 2019. En janvier 2019, la CAF a estimé que le pays des lions indomptables n'était pas prêt et avait attribué l'organisation à l'Égypte. La CAN devait finalement se tenir au Cameroun en 2021, mais a été repoussée d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus.
Un deuxième Soudanais a été tué par balle pendant les manifestations contre le pouvoir militaire dimanche au Soudan, ont déclaré mardi des médecins et d'après le ministère du Développement social, deux femmes ont été violées dans la capitale Khartoum. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré à balles réelles pour disperser des centaines de milliers de manifestants qui dénonçaient le coup d'État du 25 octobre d'Abdel Fattah al-Burhan, le général qui a récemment renforcé l'emprise de l'armée sur le Soudan.
Un syndicat de médecins militants pour la démocratie a annoncé hier la mort d'une balle dans la tête de Mohamed Ali, 28 ans, dans une ville au nord de Khartoum. Un premier décès avait été annoncé lundi. Au moins 47 personnes sont mortes depuis le putsch, a annoncé le syndicat.
Conflit communautaire dans le centre du Nigeria. Le bilan monte à 45 morts. Des agriculteurs ont été tués dans le centre du Nigeria lors d'attaques menées par des éleveurs Peul entre vendredi et dimanche dans plusieurs villages en représailles à la mort d'un de leurs, selon un nouveau bilan communiqué mardi soir par la présidence nigériane.
Des affrontements meurtriers entre éleveurs nomades ou semi-nomades et agriculteurs sédentaires liés à l'accès à la terre et aux ressources comme l'eau sont fréquents dans le centre du Nigeria. Ces conflits ont pris une tournure communautaire et religieuse ces dernières années, la plupart des éleveurs étant des peuls musulmans et les agriculteurs majoritairement chrétiens.
Au Sénégal, deux députés ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du deuxième cabinet du tribunal de Dakar. Ils seraient impliqués dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques qui secoue le Sénégal depuis plusieurs mois déjà. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Les parlementaires Elhadji Mamoudou Sall et Boubacar Williambo Biaï sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiée. C'est en septembre que l'affaire avait éclaté suite à l'arrestation de leur complice et cerveau de l'opération chez qui beaucoup d'éléments compromettants ont été découverts. L'enquête avait ainsi révélé que les deux députés avaient scellé plusieurs mariages fictifs pour permettre à des tiers de bénéficier de passeports diplomatiques. Ils se faisaient également passer pour les parents d'eau autres à travers de fausses pièces d'état civil. Suite à cela, l'Assemblée nationale avait voté la levée de l'immunité parlementaire des deux députés pour permettre aux enquêteurs de faire correctement leur travail et à la justice de parvenir à ce mandat de dépôt. Cependant, le mal semble plus profond parce qu'au-delà des deux députés, deux activistes musiciens très connus ont également été cités dans une affaire similaire, tout comme deux gendarmes de la présidence de la République récemment mis aux arrêts, toujours dans le cadre de trafic présumé de passeports diplomatiques. Seydina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
En Libye, des miliciens armés se sont déployés mardi à Tripoli, faisant craindre une reprise des violences. Pendant ce temps, des candidats clés à la présidentielle du 24 décembre semblent avoir acté le report de ce scrutin. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Des véhicules armés de mitrailleuses et un char se sont mobilisés dans une banlieue de Tripoli, la capitale. Des écoles et l'université ont été forcées de fermer et des rues bloquées par des barrages. La situation s'est détendue avec la réouverture de la plupart des rues à la circulation, mais la mission de l'ONU en Libye s'est dite préoccupée par l'évolution de la situation sécuritaire à Tripoli. Les autorités n'ont fait aucun commentaire sur la mobilisation qui intervient à 3 jours de la tenue de l'élection présidentielle du 24 décembre. Le report de ce scrutin ne fait aucun doute sur fond de désaccord entre camps rivaux et l'insécurité persistante, même si aucune annonce officielle n'a encore été faite dans ce sens. Ce déploiement survient aussi quelques jours après le limogeage contesté par plusieurs groupes armés d'un haut responsable militaire qui avait alimenté les tensions avec des mouvements armés à Tripoli.
La marine marocaine a intercepté entre le 18 et le 21 décembre un total de 352 migrants au large des côtes du Maroc. Ces candidats à la migration irrégulière sont en majorité originaires d'Afrique subsaharienne. Parmi ces migrants qui avaient pris place à bord d'embarcations pneumatiques sur des kayaks ou des jet skis, figuraient 23 femmes et 9 mineurs.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Donald Trump va s'exprimer le 6 janvier, jour du premier anniversaire de l'assaut mené contre le Capitole par ses partisans. Il continue de déclarer que l'élection lui aurait été volée. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, Donald Trump a affirmé qu'il évoquerait depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride l'élection présidentielle de novembre 2020. L'ex-président a critiqué la commission parlementaire chargée de l'enquête sur cette attaque en l'accusant d'être extrêmement biaisée. Selon lui, cette commission devrait plutôt enquêter sur ce qu'il appelle l'élection présidentielle frauduleuse de 2020. La commission qu'il dénonce cherche à faire la lumière sur les événements du 6 janvier 2021, quand des milliers de ses partisans ont envahi le siège du Congrès américain pour tenter d'empêcher les élus de certifier la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Donald Trump, qui a perdu l'élection de 2020 par plus de 7 millions de voix face à Joe Biden, a laissé entendre ces derniers mois qu'il pourrait briguer un autre mandat en 2024.
Le président américain Joe Biden a annoncé mardi l'ouverture aux États-Unis de centres fédéraux supplémentaires de vaccination et de dépistage du COVID-19 afin de lutter contre la flambée des contaminations provoquées par le variant Omicron du coronavirus. Le locataire de la Maison-Blanche s'est voulu rassurant pour les personnes qui ont été complètement vaccinées.
Parmi les mesures annoncées mardi, le déploiement de 1000 membres du personnel médical de l'armée américaine pour renforcer les effectifs d'hôpitaux submergés dans certaines zones par l'arrivée massive de patients atteints de COVID-19. Des centres temporaires de vaccination supplémentaires chapeautés par l'Agence fédérale de gestion des catastrophes vont être ouverts dès cette semaine, notamment à New York, l'un des principaux foyers de la résurgence épidémique dans le pays.
L'Europe, pour sa part, a multiplié les restrictions. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé que tous les événements sportifs en Allemagne se dérouleraient à huis clos au plus tard à partir du 28 décembre pour freiner l'épidémie. Face à la menace d'Omicron, les contacts même entre personnes vaccinées seront limités à un maximum de 10 invités pour les fêtes du Nouvel An. En Finlande, les bars devront fermer à 21h la veille de Noël, a déclaré mardi la première ministre Sana Marin.
Le premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical aurait droit à une quatrième dose de vaccin contre le COVID-19 après consultation d'un groupe d'experts.
Et puis, l'Afghanistan, les Nations Unies proposent de verser près de 6 millions de dollars au ministère de l'Intérieur, administré par les talibans, afin de veiller à la sécurité. Ces fonds seraient versés l'an prochain, d'après Reuters, pour couvrir le salaire mensuel des combattants talibans qui gardent les installations de l'ONU et leur fournir une allocation alimentaire mensuelle dans le cadre d'une extension d'un accord conclu avec l'ancien gouvernement. Plusieurs experts ont déclaré que les paiements proposés soulevait des questions quant à savoir s'il violerait les sanctions imposées par les États-Unis et l'ONU à l'encontre des talibans et de leurs principaux dirigeants et si les Nations Unies pourraient détecter d'éventuels détournements de fonds. À présent, la Minute Éco avec Mohamedou Moufa.
Le groupe Bolloré a reçu une offre de 5,7 milliards d'euros de l'armateur italo-suisse MSC pour l'acquisition de Bolloré Africa Logistics, regroupant l'ensemble de ses activités de transport et logistique en Afrique. Bolloré affirme dans un communiqué avoir accordé une exclusivité au groupe MSC jusqu'au 31 mars 2022 pour lui remettre, le cas échéant, une promesse d'achat. La société minière Africa Rainbow Minerals Limited, basée en Afrique du Sud et contrôlée par le milliardaire Patrice Motsepe, a annoncé lundi 20 décembre avoir racheté la mine de platine Bokoni d'Anglo-American Platinum Limited pour un montant de 221 millions de dollars. L'accord, qui sera finalisé d'ici 2022, sera soumis à l'approbation réglementaire des autorités compétentes. Airbus a reçu une plainte officielle déposée devant les tribunaux anglais par Qatar Airways relative au litige sur la dégradation de la surface et de la peinture de certains de ses appareils. Dans son communiqué, le constructeur aéronautique indique qu'il est en train d'analyser le contenu de cette plainte et ajoute avoir l'intention de se défendre.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine.
Oui, bonjour Jean-Roger et bonjour à tous. La Coupe d'Afrique des Nations 2022 aura bien lieu. C'est en tout cas ce qu'affirme le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en visite au Cameroun. Le Sud-Africain a été reçu par Paul Biya, le président du pays. Les deux hommes se sont longuement entretenus ce mardi à Yaoundé. C'est au terme de cette audience que Patrice Motsepe a confirmé la tenue de la compétition malgré la propagation du variant Omicron et les pressions des clubs européens. À moins de trois semaines du match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso, le doute persistait sur la tenue ou non de la CAN donc été levé. Le patron du foot africain va désormais retourner à Doha pour assister à la Super Coupe d'Afrique prévue entre Al Ahly du Caire et le Raja de Casablanca ce mercredi. Puis il fera un débriefing aux membres du comité exécutif de la CAF de ce qu'il a vu au Cameroun durant sa visite de deux jours. Et certaines sélections s'activent déjà en vue de cette grande messe du foot africain, notamment l'Égypte. Le sélectionneur des Pharaons, Carlos Queiroz, a ainsi dévoilé une liste élargie de 40 joueurs retenus pour cette CAN. Celle-ci est marqué par le grand retour de Mamoun Hassan, dit Trezeguet, absent des précédents rassemblements en raison d'une grave blessure au genou. Le joueur du club anglais d'Aston Villa retrouvera des habitués comme Mohamed Salah, Mohamed El Neni, Mustapha Mohamed ou encore Omar Mamouche. En revanche, le milieu de terrain Tarek Ahmed, titulaire indiscutable il y a quelques mois, encore fait figure de grand absent. Les expatriés Sam Mossi, Karim Hafez et Am Rouada manquent aussi à l'appel. Logés dans le groupe D, l'Égypte affrontera le Soudan, la Guinée-Bissau et le Nigeria. De son côté, le Ghana dévoilé une liste élargie de 30 joueurs. On peut noter la présence de Thomas Partey, des frères Ayou, André et Jordan, Daniel Amate ou encore Moubarak Wakasso. Les principales têtes d'affiche sont bien là. La surprise est Salis Abdoul, joueur de Clermont Foot, Ligue 1 française. Le milieu terrain est convoqué pour la première fois par son pays. Les Black Stars affronteront au Cameroun, le Maroc, le Gabon et les Comores dans le groupe C. Et puis, du basketball pour finir la NBA. Avec vous Jean-Roger, les résultats de la nuit.
Oui, Élisée, San Antonio a battu les Clippers de Los Angeles 116-92. Miami a défait Indiana 125-96. La Nouvelle-Orléans a pris le meilleur sur Portland 111-97. Houston a dominé Minnesota 114-102. Les Knicks de New York ont remporté la mise face à Detroit 105-91. Et Phoenix a surclassé les Lakers de Los Angeles 108-90.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Jean-Roger Billon, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football a déclaré pendant sa visite que le tournoi de la Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler comme prévu à partir du mois prochain. Cependant, les ouvriers qui travaillent sur le stade qui doit accueillir les matchs d'ouverture et la finale doutent qu'il soit prêt. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Yaoundé, le récit est de Mouamadou Mfa.
La Coupe d'Afrique des Nations de football devrait débuter le 9 janvier au stade Olembé de Yaoundé, la capitale. Lundi, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a visité le stade de 60 000 places qui est toujours en construction moins de 3 semaines avant le match d'ouverture. Motsepe affirme que le travail s'améliore et affiche son optimisme.
Il y a un engagement énorme et une concentration pour s'assurer que certains de ces problèmes qui sont mis en place dans les prochains jours, de bons progrès seront réalisés. Mon message est à l'Afrique et au monde que le peuple camerounais est prêt à montrer au monde le meilleur du football africain et aussi le meilleur de l'hospitalité africaine. Ce sera une CAN réussie. Alors, le 9 janvier, il doit y avoir le coup d'envoi.
Sa visite intervient alors que circulent des informations persistantes des médias locaux selon lesquelles le stade Olembé ne sera pas prêt. Des bulldozers ont creusé et aménagé des routes à l'entrée du stade ce mardi au lendemain de la visite du président de la CAF. Plusieurs dizaines de jeunes ont transporté et planté des arbres, des fleurs et du gazon qui, selon les responsables, vont embellir le stade. Luc Elundu, 35 ans, ingénieur en bâtiment, doute que l'ensemble du parking du stade sera terminé d'ici une semaine, comme l'a demandé le gouvernement camerounais.
Le mois dernier, nous étions environ 1000 personnes ici, mais maintenant, j'en vois jusqu'à 300. Les travailleurs ne viennent pas. Pourquoi? Ils travaillent sans argent. Certains empruntent de l'argent pour venir travailler, mais ils n'ont pas leur salaire. À ce rythme, même dans un an, nous ne pourrons pas finir le travail.
Jean Fradic est directeur technique du stade. Selon lui, 2000 travailleurs ont été recrutés pour s'assurer qu'avant la visite d'une mission de contrôle conjointe CAF-FIFA, le stade soit prêt pour le match d'ouverture.
On est en train de finir de mettre en place les derniers matériaux, une forte mobilisation de la part de Razel avec beaucoup d'engins pour placer les dernières couches de matériaux avant de mettre les enrobés. Quand on voit beaucoup d'engins, au lieu de penser pessimiste, il faut être optimiste. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'engins qu'il y a un problème. Au contraire, c'est qu'il y a une grosse concentration et que les travaux avancent en toute puissance.
La construction du stade a commencé en mars 2017. Le gouvernement avait annoncé qu'il sera prêt pour la CAN 2020. Mais en janvier 2020, la CAF a reporté le tournoi d'un an, affirmant que le Cameroun n'était pas prêt. La CAF a de nouveau reporté le tournoi en janvier 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. D'après les médias camerounais, le tournoi pourrait être à nouveau décalé en raison du COVID-19 et des retards de construction. Mais pour l'instant, la CAF rassure que la fête du football africain aura bien lieu comme prévu.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, accompagné de Jean-Claude Kassibrou, le président de la commission de l'institution sous-régionale, est arrivé mardi au Mali pour rencontrer les autorités de la transition. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique de l'Ouest sur le Mali. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, nous parle des enjeux de cette visite de suivi.
Après les sanctions prises contre des autorités de la transition, gelant leur avoir et les empêchant de voyager, la CEDEAO, lors de son sommet du 12 décembre, a demandé aux autorités de la transition de tenir l'élection présidentielle le 27 février 2022 et exige que les autorités de la transition présentent avant la fin de l'année un plan clair sur la tenue des élections. C'est dans ce contexte que le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, effectue cette visite au Mali. Une visite qui, selon Benjamin Sangala, journaliste, pourrait permettre d'arrondir les angles.
Je crois que la visite de Jonathan Goodluck est la suite logique du sommet des chefs d'État tenu récemment à Abuja. Il est venu remettre les recommandations de ce sommet et s'enquérir aussi de l'avancée de la transition malienne. Et cette rencontre, nous pensons, va permettre peut-être à arrondir les angles en attendant la fin des assises nationales.
Cette mission de la CEDEAO intervient alors qu'ont lieu les travaux des Assises nationales de la Refondation devant apporter des réponses à la durée de la transition et au chronogramme des élections. Selon Bakary Traoré, membre de la mission d'appui à la Refondation de l'État, cette visite devait attendre la fin des travaux des Assises.
Je pense que la CEDEAO aurait dû faire l'économie de cette visite, s'il n'y a pas vraiment des informations à donner, de faire l'économie de cette visite pour que le temps, pour donner le temps au peuple malien donc, de tenir ses Assises et à la suite donc, de ces Assises, eh bien, la mission peut intervenir et puis dialoguer avec les autorités de la transition.
À moins d'un mois de la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO pour corser les sanctions à l'encontre du Mali, Néné Diallo du mouvement Nouveau Type de Malien estime que cette visite peut être bénéfique pour toutes les parties.
L'ultimatum lancé par la CEDEAO, c'est que à la fin de ce mois de décembre, à partir de janvier, des sanctions peuvent tomber contre le Mali si jamais on ne maintient pas les élections pour février. Alors, on sait que techniquement, c'est un peu difficile, donc c'est une stratégie de pression. Donc, le Mali ayant proposé qu'on va donner un chronogramme précis et clair à l'issue, à la sortie des assises. Donc, moi, je pense que cette visite, ça doit servir surtout à mettre la balle à terre parce que et le Mali ne gagne pas dans cette joute et aussi les différents partenaires du Mali, les différents partenaires du jeu ne gagnent pas forcément dans cette situation.
À noter que c'est au terme des assises nationales prévues pour le 30 décembre que les autorités ont promis de donner un chronogramme détaillé de la tenue des différentes élections. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Des informations pertinentes et fiables. C'est VOA Afrique au Mali. Musique et actualité pour tous. Sur 102 FM Bamako, 106.1 Gao et 90.3 Tombouctou.
VOA Afrique vous conduit maintenant à la découverte de Djéné au Mali. Autrefois attraction touristique par excellence, la ville de Djéné, classée au patrimoine mondial de l'humanité, est constamment sous la menace des groupes terroristes et chasseurs d'oiseaux. Les habitants sont toujours nostalgiques des temps où le tourisme rapportait des millions aux guides touristiques, vendeurs d'objets d'art et hôteliers. Aujourd'hui, les populations souhaitent un retour rapide de la paix et de la cohésion. Mise en perspective sur place, Mokhtar Bari.
Classé patrimoine mondial de l'humanité en 1988, avec sa mosquée majestueuse connue pour être la plus grande bâtisse en terre au monde, Djéné, ville située au centre du Mali dans la région de Mopti, était une destination qui faisait rêver les touristes. La ville accueillait plus de 15 000 touristes venant d'Europe ou d'Amérique généralement. Aujourd'hui, le constat est amer, tant l'insécurité a rendu la ville déserte. C'est la déchéance au plan touristique depuis 2012. Almami Traoré, un artisan, s'en rend compte.
Je connais très bien l'importance du tourisme. Il y avait les gens du corps de la paix dans notre famille. Ils nous achetaient des bougoulans. Nous tous qui sommes des hommes, notre temps est consacré aux bougoulans. Ma femme partait jusqu'à Bruxelles pour vendre ses bougoulans et dans n'importe quel marché à Bamako. Mais maintenant, il n'y a plus de sécurité et les gens du corps de la paix qui étaient chez nous sont partis et finalement, on ne voit plus de blancs à Djéné. C'est devenu perplexe pour nous. Toi qui es pauvre, qui es enfermé sans recours. Notre souhait n'est pas la guerre et c'est les autorités seules qui peuvent mettre fin à cette guerre.
Alima Tienta, une vendeuse d'objets d'art, se souvient toujours de la vague de touristes qu'accueillait la ville pendant les périodes de fin d'année. Elle constate l'écart des revenus avec amertume.
Quand les touristes venaient, on gagnait bien en assouvissant les besoins de nos enfants ainsi que de la famille. Mais aujourd'hui, c'est dur car les touristes ne viennent plus. et même les quelques étrangers qui venaient et qui permettaient aux gens de gagner un peu ne viennent plus dus à la guerre.
Habité par des Bozo, Peul, Bambara, Sonray, Dogon, autrement des pêcheurs, éleveurs et agriculteurs, la ville est au cœur des attaques des groupes terroristes et le souhait ardent des habitants de Guinée est de sortir de ce cycle de violence qui sème les graines de la haine intercommunautaire. La ville est classée depuis 2016 comme patrimoine en péril par l'UNESCO. Ali Matienta.
Mon souhait est la fin de la guerre et le retour des touristes. C'est ce que nous demandons à l'autorité et à Dieu. Même si tu es bozo et veux aller à la pêche, il faut au moins la tranquillité d'esprit. Mais sachant qu'il y a la guerre, c'est impossible d'aller et tu ne peux plus nourrir ta famille.
La venue des touristes fait notre bonheur, mais nous avons également besoin de sécurité. Les touristes nous font beaucoup de bien. Ils construisent des maisons pour certains ou donnent l'équivalent en argent. Des fois, ils nous achètent des matériels de travail. Nous appelons à l'unanimité pour pouvoir nous débarrasser des terroristes, car c'est ce qui nous arrangerait tous.
Autrefois, une destination prisée par les touristes en provenance d'Europe et d'Amérique, Guinée est aujourd'hui une zone à risque, même pour les Maliens. Avec l'inauguration d'un commissariat et d'un tribunal d'instance, les habitants espèrent le retour de la sécurité dans cette ville jumelle de Tombouctou. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Guinée.
Depuis quelques années, le Sénégal mise sur la formation professionnelle pour lutter contre le chômage des jeunes. L'objectif est de proposer des formations qui répondent aux besoins du marché afin d'une part de renforcer l'employabilité des jeunes et d'autre part augmenter la compétitivité des entreprises. Plusieurs centres de formation ont donc ouvert. Alison Lekogo Fernandez et Bachi Yaz Bodian se sont rendus dans l'un de ces établissements en reportage.
À Guédiéway, en banlieue de Dakar, Théophile Junior Himban, 19 ans, vient de s'inscrire en CAP.
Ça passe. Vérifie les deux autres.
Le jeune homme a décidé de se spécialiser dans les métiers du froid pour devenir ingénieur frigoriste. À l'issue de cette formation, il espère décrocher un emploi sans difficulté et rêve, à terme, de lancer sa propre entreprise.
J'étais dans l'enseignement général. En fait, j'ai vu que c'était une perte de temps pour moi et ça avançait pas. Du coup, j'ai préféré faire une formation pour tracer mon avenir, pour avoir un métier.
Au Sénégal, le taux de chômage était de plus de 16% en 2020. Un chiffre encore plus élevé chez les titulaires d'un diplôme Bac plus 2. Pour Ibrahim Agorgi, directeur de ce centre de formation et de perfectionnement en métier de l'industrie, les formations généralistes dans le pays ne préparent pas assez les jeunes à intégrer le marché de l'emploi.
Dans les autres types de formation, les jeunes sortent et ne trouvent pas, donc même un stage pour le faire. Ils ont des difficultés pour trouver un stage. À ce niveau-là, donc quand vous sortez avec un diplôme qui vous offre un métier, le métier donc autour de vous, chez vous-même, vous pouvez être appelé, par exemple, à régler un problème de frigo. Quand il y a un problème de courant, vous pouvez être appelé même à régler ce problème-là.
Depuis quelques années, le secteur de la formation professionnelle est en plein développement au Sénégal. En 2019, l'État a décidé de reverser l'intégralité de la taxe d'apprentissage aux 3FPT, la structure d'utilité publique qui finance les projets de formation. Un acte fort selon sa directrice, qui estime qu'il doit toutefois être pérennisé par d'autres dispositifs de financement alternatifs.
Le secteur public ne peut pas tout porter. Donc il faut qu'on trouve des mécanismes, il faut qu'on trouve aujourd'hui des dispositifs alternatifs pour financer la formation professionnelle et technique dans nos pays africains. Une implication encore beaucoup plus accrue, beaucoup plus forte du secteur privé, mais également des partenaires au développement.
Depuis sa création en 2014, le 3FPT a permis à 56 000 jeunes de bénéficier d'une formation. Parmi eux, le directeur du centre lui-même, qui a pu financer, grâce à la structure, son master en management des projets. Alison Lekogo Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà, ce sera tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Jean-Roger Billon et Rosine Monizero, à la mise en onde de Michel Joseph et à la technique Elvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.